Pour une dernière fois.
Pour juste, voilà. Attends, c'est quoi donc?
Pour une dernière fois. Avant de m'en aller, c'est ça.
J'aimerais connaître encore l'endo de tes caresses.
Ça va, Luc.
Je veux pas que j'aille plus loin.
Non, je veux surtout pas. Je veux surtout pas t'aille plus loin que l'endo des caresses. Alors, parle-nous un petit peu de les Américains, toi. Qui ont non, mais j'allais te lancer, là.
Vas-y.
Je suis en train d'installer le tremplin sur lequel tu vas nous faire un beau, un triple saut en vrille, machin chouette, là. Les Américains qui ont formé les assassins saoudiens de Khashoggi.
Et voilà. Et voilà. D'abord, sachons que c'est pas la première fois que ça arrive, là. À l'heure actuelle, là, j'ai vu ça juste il y a à peu près une demi-heure. La CIA prévoit que 6 mois après la fin du retour du retrait de l'Afghanistan, les talibans seront au pouvoir. Puis les talibans, c'est qui les a créés? Ce sont les Américains. À l'époque, ils s'appelaient les Moudjahidines, puis ils combattaient les Soviétiques. Alors, ils sont habitués à ça, les Américains. Alors, il y a 4 membres du commando qui a tué le journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018, qu'ils avaient reçu un entraînement paramilitaire aux États-Unis, lequel avait été approuvé par le département d'État américain. C'est un scoop du New York Times. Tu sais, il faut savoir là, qu'il était très critique du pouvoir saoudien. Ceux qui s'en rappellent pas de Jamal Khashoggi, là, après avoir été un proche du régime, Khashoggi est allé résider aux États-Unis. Il est devenu chroniqueur du quotidien Washington Post. Puis il a été assassiné le 2 octobre 2018 dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul par une équipe d'agents venus d'Arabie Saoudite. Vous vous en souvenez sans doute. Un meurtre absolument crapuleux. Il a été étouffé sous un sac de plastique, puis ensuite on l'a découpé vivant. C'est incroyable.
Puis on n'a jamais trouvé le corps. On pense ils l'ont probablement dissous dans l'acide.
Oui,
et une fois qu'ils l'ont dissous dans l'acide, ils ont versé ça dans les égouts d'Istanbul.
Et voilà. Et là, ce qu'on sait, c'est que le quotidien new-yorkais, le New York Times, nous dit que Kat avait reçu une formation d'un groupe privé américain, le Tier One Group. L'autorisation a été accordée d'abord par l'administration d'Obama, mais jusqu'en 2014, puis après, ça s'est poursuivi à peu près jusqu'au début du mandat de Donald Trump.
Mais attends un peu, Luc, là.
Oui.
Tu peux faire ça, toi, là. Tu peux demander une formation, comment tuer, là, une formation, le cours 101 en assassinat politique.
Il y a des documentaires absolument percutants que j'ai vus. Ça concernait plutôt l'Amérique latine à l'époque où les généraux régnaient sur à peu près tous les pays d'Amérique latine.
Oui, 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 oui.
Bon, par exemple, en Argentine, là, je me souviens d'un document extrêmement frappant.
Ah non, ils l'ont tous eu. Là. Toutes les dictatures latino-américaines avaient eu des formations soit de l'armée américaine ou de la CIA. Non, mais là, c'est parce que tu nous dis que c'est un groupe privé américain, donc genre des anciens commandos, des anciens agents des services secrets américains ou de...
Sans aucun doute, mais ça, c'est un autre débat, puis on devrait en parler une bonne fois. Aux États-Unis, à partir de la guerre d'Irak puis d'Afghanistan, ils ont commencé à sous-traiter la guerre, n'est-ce pas? Le Black Group, là. Ce sont des mercenaires, quoi. Et un Tier One Group doit être un groupe de mercenaires. Puis aux États-Unis, ils considèrent que c'est une bonne façon d'utiliser ces gens-là. Mais c'est quand même...
Mais c'est parce que tu crées une distance avec l'État. Hein, c'est ça, l'idée, c'est de pouvoir dire nous autres, le gouvernement, on n'a rien à voir là-dedans.
On fait, par exemple, un crime, puis on l'a vu, celui-là, les États-Unis s'en lavent les mains. C'est pas de ma faute, moi, si eux autres ont fait ça.
C'est sûr, on n'était pas au courant. Fait que tu sous-traites ça au privé. Si jamais ça tourne mal, tu peux blâmer l'entreprise. Puis toi,
écoutez, on rompt nos liens avec cette entreprise.
Ben,
elle renaît une semaine plus tard sous un autre nom.
Voilà.
Exactement. Ah, bon, on va passer à autre chose. Puis ça, parce que ça me fait sourire, puis ça me rend heureux. Plus de 150 employés de l'hôpital méthodiste de Houston au Texas qui ont refusé de se faire vacciner contre la COVID-19 ont été licenciés ou ont démissionné à la suite de la décision d'une juge.
Ah!
Ça prendrait ça au Québec! Un porte-parole de l'hôpital méthodiste de Houston a déclaré que 153 employés avaient démissionné au cours d'une période de 2 semaines ou avaient été licenciés. Plus tôt ce mois-ci, une juge fédérale a rejeté la poursuite intentée par 117 employés qui contestaient l'exigence de vaccination.
Et ils refusaient de se faire vacciner pour des convictions religieuses ou je ne sais trop?
On dit que c'est... Attends, je vais t'en donner quelques exemples. Dans la juge Lynn Hughes, qui a rendu le jugement, estime l'affirmation de la plaignante principale, Jennifer Bridges, selon laquelle les vaccins sont expérimentaux et dangereux, était fausse et non pertinente. Elle a également constaté que Jennifer Bridges comparait l'exigence de la vaccination à l'expérimentation médicale forcée des nazis sur les captifs des camps de concentration pendant l'Holocauste. Le juge a jugé cette affirmation absolument répréhensible.
Oui.
Le juge Bridges a déclaré que si les employés du système hospitalier n'aimaient pas cette exigence, ils pouvaient aller travailler ailleurs. Où sont les juges au Québec qui vont écrire la même chose, Bernard?
Ben là, Luc, qui...
On en est où, Bob? En passant, en pourcentage des travailleurs de la santé, est-ce qu'on a dépassé le 80% maintenant?
Là, j'ai ça doit se trouver, là, mais cette statistique n'a pas été publiée depuis un certain temps, mon cher.
Ouais, ben, je me demande pourquoi, d'ailleurs, mais enfin. Au Brésil, là, c'est vraiment catastrophique, là. Et franchi samedi le cap des 500 000 morts de la COVID-19.
Ouais.
Il s'agit d'un bilan cumulatif moins élevé que celui des États-Unis, plus de 600 000 morts, mais qui est le plus élevé de la planète en proportion de sa population.
Ouais, puis comme il fait chaud, là...
Ben non, mais c'est le contraire, là. La mauvaise nouvelle pour le Brésil, c'est que l'hiver ne fait que commencer.
Ah, c'est vrai, ils sont
à
l'envers.
On est dans l'hémisphère sud.
Ben oui, fait que
Le variant Delta commence à faire son apparition.
Oh, bâtard!
Puis les virus, comme tu sais, aiment le froid... et que les observateurs prédisent que le bilan va encore s'alourdir, on peut s'attendre à 700 ou 800 000 morts avant de voir les effets de la vaccination. Sur 10 Brésiliens, 2 ont jusqu'ici reçu une dose de vaccin, et un seul est entièrement vacciné. Malgré ces taux assez bas, les consignes sanitaires de base sont peu respectées au Brésil, à commencer par le sympathique président lui-même, Jair Bolsonaro, le Trump de l'Amérique latine, le populiste en chef. Alors, au début de juin, il n'y a pas si longtemps, à visage découvert, M. Bolsonaro a participé à un rassemblement de motocyclistes dans l'État de San Paolo, en contravention avec les règles sanitaires locales, où il a notamment plaidé pour que les vaccinés ne portent plus de masque.
OK, mais là, il a reçu une dose, mais pas deux, lui, c'est ça?
Lui, je crois qu'il a reçu une... Je ne sais pas s'il a reçu une dose. Je sais qu'il a été atteint, là, qu'il a contracté la COVID-19 en juillet 2020. Puis il a affirmé à de multiples reprises qu'il ne se ferait pas vacciner. Mais il est tellement capoté, il l'a peut-être fait à la cachette. Là. C'est à la Trump, là, n'est-ce pas?
Ben oui. Mais
là, on s'en va en Russie pour terminer notre tour COVID.
Ouais.
Là, c'est une situation explosive. Hier, en Russie, confrontée à une augmentation rapide du nombre des contaminations et des morts imputées au variant Delta et à une campagne de vaccination ratée. Ce qui est quand même frappant parce que le premier vaccin à avoir été administré contre la COVID, c'est un vaccin russe, le Sputnik.
Les pays qui l'ont utilisé, en tout cas dans le temps...
Ça marchait.
Ça marchait.
Les résultats étaient bons. L'Allemagne en a même acheté un peu pour couvrir une zone de...
Puis ils l'ont sorti vite, tu te rappelles? Eux autres puis les Chinois ont comme été les premiers. Là.
Ouais.
Bon, c'est ce qui nous rendait un peu sceptiques, d'ailleurs. On n'était pas certain que...
Le vaccin chinois ne donne pas des très bons résultats, d'après ce que je vois et ce que je lis. Mm. Tandis que le vaccin Sputnik semble donner des bons résultats.
Ouais.
Alors, on parle, la vice-première ministre et ministre chargée de la Santé parle d'une propagation explosive de la maladie. La semaine dernière, le taux de mortalité lié à la COVID a augmenté de 21,3% par rapport au mois précédent. Et la Russie enregistre chaque jour des milliers de nouveaux cas et des centaines de morts supplémentaires.
Mmh.
Alors, le maire de Moscou dit, mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Là, on a rendu obligatoire le vaccin pour les employés du secteur des services. Ça veut dire, évidemment... Bon, les travailleurs de la santé, ça va de soi, mais après ça, les policiers, les caissières et les caissiers dans les épiceries, dans les restaurants, tout ce monde-là est obligé de se faire vacciner, mais ils sont tellement en retard. Écoute, selon Mme Golikova, là, qui est la vice-première ministre, 20,7 millions des 146 millions de Russes ont reçu une première dose de vaccin.
Hey, c'est pas
c'est
beaucoup.
Vraiment faible.
Oh, bye bye.
Contre le, et 16,7 millions les deux doses.
Alors, va falloir
ce
que...
sont les deux pays à surveiller, Brésil et Russie. Là, l'hécatombe se poursuit, ça n'a même pas ralenti.
Ouais, mais la Russie a un avantage.
C'est-à-dire?
Ils ont la Sibérie. Tu veux pas te faire vacciner, Vladimir va t'envoyer en Sibérie.
Camarade Bernard, camarade Bernard. Ramasse tes clics puis tes claques, tu t'en vas en Sibérie.
Ah, j'ai même pas le temps de les ramasser. j'ai boy. Bon, Luc.
Bon été, Bernard. Bonnes vacances.
Bon été, certain. Puis on va continuer à se parler, nous autres, parce qu'on suit le Canadien.
On suit le Canadien.
Hein? On suit le Canadien. Oui. On peut même faire une petite confidence à nos auditeurs.
Vas-y, Bernard.
On peut même dire que tu m'as invité à fêter la fête du Canada.
Parce que je veux créer une tradition. On l'a fait l'année passée, toi et moi. Alors, cette année, on le fait à nouveau. Moi, j'ai décidé que Bernard, je l'invitais à chaque fois pour la fête du Canada.
Bon, sois honnête.
Oui.
C'est plutôt ta douce, Catherine, qui nous invite.
Oui, hein? OK, d'abord. Je pensais que j'avais l'air sympathique.
J'ai découvert que c'était ça la vraie histoire. Mais je me suis dit, Luc, au nom de la réconciliation, au nom du rassemblement, de l'unité...
Nationale.
Créée par les victoires successives du Canadien, pas national.
Et les nombreux Québécois qui font partie de l'alignement. Mais comme l'avait dit Serge Savard quand il avait dit à Bergevin, si tu gagnes en anglais, ça va être correct, mais si tu perds en anglais, tu vas trouver ça dur.
Ben là, il gagne. Fait que,
il gagne.
On souhaite qu'il continue à gagner. Fait que, on est heureux, on est de bonne humeur. En passant, la firme dont tu parlais tout à l'heure, il y a un auditeur qui nous dit c'est Blackwater. Hein, je pense
Blackwater,
que c'est ça.
Blackwater, exactement. Blackwater.
Mais rappelle-toi, il y a Halliburton aussi, hein, qui a trempé.
Halliburton
qui a trempé dans ces affaires-là. Puis on se souvient.
Et qui était autrefois présidé par Dick Cheney.
Dick Cheney, exactement. Très voilà. Bien. Ben, Luc, on se reparle le premier. On se revoit le premier. On va se parler avant ça. On se souhaite une belle victoire demain. Puis je te souhaite une belle fête nationale. Salut, mon gars.
Bye.
Après la pause, le marché des voitures, les prix, c'est fou raide. T'as des voitures usagées qui se vendent plus cher que le prix de vente neuf. Benoît Charrette va être là.